Qu'est-ce qui se passe ?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef.
Et on se retrouve dans Qu'est-ce qui se passe, votre agenda culturel. Nous sommes le vendredi 5 avril et je suis toujours en compagnie de Lucie. Bonjour.
Salut.
Est-ce que ça va ?
Ça va bien et toi ?
Et donc, en ce midi et demi, nous allons vous présenter donc l'agenda culturel de ce week-end, qui est encore chargé, il y a plein de trucs, il y a pas mal de musique d'ailleurs.
Ouais, beaucoup de concerts ce week-end.
Bah ouais, bah
il va falloir aller danser.
Allez, c'est trop cool de danser. Puis sortir en concert, il y a toujours plein de choses à découvrir, et toujours des bons artistes. Et donc, on vous rappelle que les informations sont à retrouver sur le site de Studio Z dans l'article Qu'est-ce qui se passe, et sur Facebook aussi, réseaux sociaux.
Et en fin d'émission, on a un nouvel In Extremis sur un nouveau thème, le thème du mois d'avril, c'est l'énergie autrement.
Waouh, ce teasing.
Ouais.
Donc et du coup,
on, voilà, c'est ça. On rencontre Sortir du nucléaire 41 et je pense que...
Il y a beaucoup de choses à dire.
Ouais.
Et on va commencer par l'agenda culturel et on va commencer avec de la BD.
Avec la Maison de la BD qui organise ce vendredi 5 et ce samedi 6 avril les 48 heures de la bande dessinée, une manifestation populaire et festive qui se déroule chaque année partout en France et en Belgique. Vous pourrez assister à deux conférences. La première, vendredi à 18h30, c'est Yechem qui l'animera, un spécialiste de la BD US. Il vous parlera de la bande dessinée dans la presse américaine qui se décline selon deux modes de publication, le Daily Strip ou la Sunday Page. Il vous expliquera comment, en quelques cases, les auteurs ont réussi à créer un vocabulaire d'une efficacité remarquable. La seconde conférence est animée par Laurent Lefeuvre, auteur français et papa du super-héros Foxboy, justicier rené qui officie en Bretagne et au-delà. Il sera là pour parler de sa passion pour les comics, revenant sur le contexte de leur création. Et en plus des conférences, des ateliers sont organisés samedi après-midi. On vous met le programme sur le site de Studio Zef, comme d'habitude. C'est vendredi et samedi à la Maison de la BD. Musique maintenant ?
Eh bien oui, ça se passe à vendredi à 20h30 à la Maison de Bégon avec deux artistes et leurs musiciens qui se réunissent sur scène le temps d'un voyage en commun qui s'annonce explosif. Il s'agit de Majnoun et Meloblast. Le premier est un chanteur bercé par les musiques d'Afrique de l'Ouest, pardon, amoureux du rythme, il mêle des notes afro-blues à une base plutôt jazz et ça fonctionne. Le second est un sextet de jazz, une sorte de laboratoire sonore aux allures de fanfare déjantée à l'audace sans limite. En bref, 11 musiciens qui vont vous emmener ailleurs, entre traditions africaines et jeux expérimentaux, ça promet. À retrouver ce vendredi 5 avril à la Maison de Bégon. Et on met les femmes à l'honneur.
Dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent, l'association Figure Libre organise un concert au troisième volume du Minotaure à Vendôme. Une soirée avec une line-up chargée, on y trouve le groupe Random Recipe, un groupe plutôt hip-hop qui questionne l'importance des figures féminines quand la société est toujours en retard sur les notions d'égalité. On rencontre ensuite Camilla Sparks dans un univers assez sombre et électro proche de la culture club des années 80. Et pour finir, on termine avec Queen of the Meadow, formé du duo entre Hélène Ferguson et Julien Prass pour un groupe aux tonalités plutôt folk. Et on continue en musique avec du reggae.
Le Château d'Eau propose un concert ce vendredi 5 avril à 20h30, un incontournable de la scène reggae d'aujourd'hui, Alborosie. Si vous êtes amateur de reggae, ce nom ne vous est pas inconnu. Il s'agit d'un des chanteurs reggae les plus populaires en Europe, mais aussi sur le continent américain. On lui doit des titres comme Herbalist ou encore Kingston Town. Pour son dernier album, Unbreakable, sorti en 2018, Alborosie s'est entouré des meilleurs, les Wailers, musiciens de Bob Marley. Pour cet album, on retrouve un univers très roots, plus classique, avec une voix qui se fait plus mélodique, plus assagie et moins agressive. Juste avant Alborosie, on retrouve en première partie Marcus Gadd. C'est une figure incontournable du reggae de Nouvelle-Calédonie et il incarne le renouveau du reggae roots méditatif, mais aussi engagé. Son message invite au voyage et à la réflexion. En bref, une belle soirée qui s'annonce ce vendredi soir au Château d'Eau. Et après le reggae, on finit avec une ambiance blues.
À seulement 84 ans, Bobby Rush est très sûrement l'artiste blues traditionnel le plus représentatif de notre époque. Après quelques années de carrière, à peine 66, et un Grammy Awards, il nous propose un blues teinté de funk appelé Folk Funk. Vous aurez droit à un concert haut en couleur qui vous emmènera dans le sud américain, dans cette tradition du blues. Ce concert organisé en partenariat avec la Maison du Blues de la Chartres-sur-Cher se tiendra à la Pyramide de Romorantin ce samedi 6 avril.
Et toutes les infos sont à retrouver dans l'article de Studio Zef sur le site studiozef.fr. Et on va toujours continuer en musique. Qu'est-ce que tu nous proposes ?
Alors c'est John Frusciante, le son s'appelle My Smile is a Rifle et vous allez voir c'est un petit peu perché comme son, c'est le guitariste des Red Hot Chili Peppers qui a fait un truc solo et ça donne ça.
Thank you.
Qu'est-ce qui se passe ?
Pas de panique, c'est l'heure de l'actu culturel.
Musique, théâtre, cinéma, sortie.
Votre agenda culturel avec Studio Zef.
Et on vient donc d'écouter John Frusciante avec My Smile is a Rifle.
Ouais, c'était bien.
Bah ouais, plutôt. Enfin, c'est un peu particulier, mais bon, c'est pas de la mauvaise musique encore. Et on va partir sur une extremis.
Bah, on écoute ça.
Avec Sortir du nucléaire 41.
In extremis. Mettons les choses au vert. On se retrouve au mois d'avril pour un nouvel In Extremis avec un nouveau thème qui est l'énergie. Aujourd'hui en France, 72% de l'énergie électrique produite vient du nucléaire. C'est pourquoi l'association Sortir du nucléaire 41 est venue nous parler de ce sujet qu'ils maîtrisent bien mieux que nous. Alors, je suis aujourd'hui avec Jean Colli et Didier Narbe-Buru, qui font partie tous les deux de l'association Sortir du nucléaire 41. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci d'être venus. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est que Sortir du nucléaire 41 ?
Sortir du nucléaire 41 est donc une association loi 1901 qui a formalisé son existence il y a une dizaine d'années et dont l'objet est de s'informer, d'informer, de veiller. Et on a un sujet de veille qui est très important, c'est la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux, juste à côté de chez nous, et d'alerter le public, et également de promouvoir une transition énergétique bas carbone.
En complément de ce que dit Didier, on est à peu près 25, actuellement on est 25 adhérents à payer notre cotisation et on a une centaine de sympathisants. La plupart des conférences débats qu'on peut organiser, on arrive à entre 80 et 100 personnes, on compte sur une centaine de sympathisants.
Du coup, pour éclairer un petit peu nos auditeurs sur un petit peu les dangers du nucléaire, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors... C'est un sujet assez...
Oui, c'est très large.
Fondamentalement, enfin, je vais prendre deux exemples, simplement. Je vais vous donner une ou deux sources. L'exposition à la radioactivité entraîne des mutations au niveau cellulaire. Voilà. Et ça touche, ça touche le génome. Voilà. Et ces mutations, une fois qu'elles sont initiées, partent en cascade, comme ça, dans l'espèce humaine, et on ne sait pas où elles vont s'arrêter. Et elles sont la cause de toutes sortes de pathologies, et non seulement des cancers, parce qu'on parle uniquement des cancers, mais également, il peut y avoir des malformations génétiques chez les enfants, il peut y avoir des maladies cardiaques. Enfin, c'est très, très impressionnant. C'est tout un chapelet de maladies qui sont, d'ailleurs, pour partie niée par une certaine branche, disons, de l'industrie nucléaire.
D'accord ? Aujourd'hui, c'est très clair. On est exposé à ces radiations, enfin...
Alors, oui, au quotidien. C'est-à-dire que tout a commencé au moment où il y a eu les essais nucléaires. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler du nucléaire maintenant, parce qu'il y a une accumulation qui s'est faite. Et il y a une augmentation de la radioactivité ambiante absolument considérable depuis qu'on a démarré les essais pour faire la bombe, les essais de bombe atomique, finalement. Et c'est là où il y a eu la plus grande production de déchets. Et là, comme ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une vision hexagonale, voire même régionale. C'est-à-dire que ces pollutions sont parties, à l'instar plus tard, après l'accident de Tchernobyl ou de Fukushima, mais c'est parti dans la nature, mais à l'échelle planétaire.
D'accord.
On est sur un phénomène planétaire. Hein ? Tchernobyl, même si on a un monsieur qui s'appelait le professeur Pellerin, s'il a dit que les radiations, c'est le seul pays au monde où on a fait ça, on a dit que les radiations s'arrêtaient aux frontières, en fait, elles sont parties en Corse, elles sont parties en Savoie, etc. Et elles ont causé des dégâts au niveau sanitaire, des leucémies, des choses comme ça. Alors c'est très insidieux, c'est là où c'est une des grandes difficultés. C'est très insidieux, c'est-à-dire que c'est inodore, invisibles et les effets peuvent être apparents au bout d'une, deux générations.
D'accord.
Une chose est sûre, c'est que si... personnellement, je suis adhérent à une association qui s'appelle Enfants de Tchernobyl Bélarus, qui soutient un institut qui soigne les enfants atteints justement qui sont empoisonnés par les radionucléides, déposés après l'explosion de Tchernobyl. Et quand on voit liste des dégâts qui sont faits, c'est absolument, c'est affolant. Et ce qu'il faut voir surtout, et c'est là où c'est choquant, c'est que c'est les jeunes, c'est les mamans qui sont enceintes, c'est les jeunes qui sont et les enfants qui sont exposés.
Oui, c'est eux qui payent le prix.
Ouais, je disais un truc, c'était justement dans un des bulletins de cette association, c'est un enfant qui tombe dans la rue comme ça et atteint de mort subite. Bon, c'est extrême.
Okay.
Mais donc vous donnerez des références pour les gens qui veulent lire et s'informer.
On le mettra dans l'article de Studio.
Ah oui, c'est important. Oui, oui, oui. Voilà, alors sur les déchets, il y a vraiment, vraiment à dire. Je vais vous dire un petit passage juste pour quantifier, parce que les gens aiment bien les chiffres. On ne voulait pas donner trop de chiffres, mais sur l'impact et les déchets. Alors, donc, première chose, les effets sur le génome sont connus par les biologistes depuis 1920. Il y a eu un épisode important qu'il faut rappeler, c'est en 1957 au niveau de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Il y a 20 chercheurs, 20 des gens qu'on appelait des savants à l'époque, des biologistes, qui ont fait écrit une tribune dans laquelle ils dénonçaient cela, c'est-à-dire la nocivité des rayonnements qui provoque des mutations chez l'homme et ses descendants. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que tous les faucons, tous les gens qui voulaient se doter de l'arme atomique, ont mis en place l'atome pour la paix, c'est-à-dire l'atome civil. Et ils ont fait en sorte que l'OMS soit dépendante, pour toutes les questions de santé, d'un autre organisme, qui est l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA. Et depuis, l'OMS n'a plus droit au chapitre.
Okay.
C'est un coup d'État. Mm. Bon, donc les choses se sont développées et jusqu'à présent on ne peut pas s'appuyer sur les rapports de l'OMS, etc., puisque tout est...
C'est faussé, en fait.
C'est faussé.
Prolongement de ce que dit Didier à propos, en restant dans le domaine des dangers, il apparaît utile et en même temps on en voit les limites de faire le distinguo que fait l'AIEA, en fait, l'Agence internationale de l'énergie atomique qui elle promeut le nucléaire, hein, donc c'est pas vraiment nos amis. L'AIEA distingue la sûreté nucléaire et la sécurité nucléaire et c'est repris dans le droit français d'ailleurs, hein, cet aspect sûreté nucléaire. La sûreté nucléaire est assurée par l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire en France. Hein.
Okay.
Et qu'est-ce que c'est que la sûreté nucléaire ? Je reprends la définition. L'obtention de conditions d'exploitation correcte, prévention des accidents ou atténuation de leurs conséquences, avec pour résultat la protection des travailleurs, du public et de l'environnement qui ont des risques radiologiques induits. Voilà pour la sûreté nucléaire. Quant à la sécurité nucléaire, qui elle en fait dépend de la police, du ministère de l'Intérieur et ministère de la Défense, ce sont les mesures visant à empêcher et à détecter un vol, un sabotage, un accès non autorisé, un transfert illégal ou d'autres actes malveillants mettant en jeu des matières nucléaires et autres matières radioactives ou les installations associées. Bon, alors ce distinguo, il est peut-être utile, mais toujours est-il que pour nous qui prônons la fin du nucléaire, que ce soit un problème de sûreté ou un problème de sécurité, le risque reste le même. Et quels sont ces risques ? Pour faire court, si vous voulez, on peut les catégoriser en 5, voire 6 domaines. Alors, je les cite rapidement et puis on pourra, si on a le temps, les passer un petit peu en revue. Les dangers ou les risques au quotidien, les dangers liés au transport, les dangers liés à un risque d'accident, les dangers liés aux déchets, le danger pour la démocratie, ça surprendra peut-être, mais c'est un vrai danger pour la démocratie, et les dangers économiques. Alors, sans rentrer dans le détail, mais qu'est-ce qu'on entend par danger au quotidien ? Ben, il faut savoir, et contrairement à ce que peut dire le lobby nucléaire, EDF et le lobby nucléaire en général, c'est qu'une centrale nucléaire, pour ne parler que centrale, alors qu'à l'amont, comme vous le savez peut-être, on a tout la préparation des combustibles. On a les mines d'uranium essentiellement en Afrique, on a toutes les usines d'enrichissement à Malvézie dans l'Aude, à Tricastin dans la vallée du Rhône, la fabrication des gaines de combustible, des combustibles à Romans-sur-Isère, etc. Donc je ne parle même pas de toutes ces usines-là qui est le pollue gravement également. En ce moment, on parle en particulier de gros risques à l'usine de Malvézie dans l'Aube, près de Narbonne. Donc, si je ne parle que des centrales nucléaires, il faut savoir que les 19 sites de centrales nucléaires, les 58 réacteurs, polluent quotidiennement. Quotidiennement, en rejet aussi bien atmosphérique que rejet liquide. Ici, à Saint-Laurent, très régulièrement, on rejette à la fois des produits chimiques non radioactifs et des produits radioactifs. J'en prends pour exemple, le bilan tout à fait officiel de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Donc c'est le bras droit, si vous voulez, de l'ASN. L'Agence de sûreté nucléaire, le gendarme du nucléaire. Donc là, j'ai sous les yeux le bilan de l'état radiologique de l'environnement français de 2015 à 2017. Si je prends les rejets atmosphériques. Par exemple, pour Saint-Laurent, on voit qu'on a des rejets de gaz rares, on a des rejets de tritium, on a des rejets en iode, on a des rejets en carbone 14, etc., etc. Même chose pour les rejets liquides. Alors, bien sûr, tout ça est encadré par des textes réglementaires, par des décrets ministériels, mais ces décrets ministériels sont issus des volontés de l'exploitant industriel. Et donc, on s'aperçoit que finalement, c'est l'environnement et l'homme et les espèces humaines qui en ont les conséquences.
On arrive à la fin de ce In Extremis. On remercie encore les membres de Sortir du Nucléaire 41 qui sont venus nous expliquer des choses qui nous apparaissaient un peu comme compliquées. Malheureusement, on a dû beaucoup couper l'interview parce que c'était très très long, mais on vous remettra l'intégralité dans le In Extremis complet d'une heure qui sortira le mois prochain. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine pour la suite de cet In Extremis sur l'énergie.
Et voici le premier In Extremis de ce mois d'avril qui vient de se terminer. Un nouveau thème.
Un nouveau thème.
pour un nouveau mois. Une nouvelle question auxquelles on va essayer de répondre tout le mois.
Et donc vous pourrez retrouver donc In Extremis du mois de mars, le lundi après-midi et le mardi matin.
En version complète où on a tout...
Avec des interviews plus longues.
Ouais.
Parce que moi je coupe. Et donc là vous aurez un peu plus d'infos, des choses un peu plus complètes. Toujours un format qui devrait un peu dépasser une heure.
Voilà, et qui devrait être très intéressant.
Ah oui, totalement. Il y a forcément plus d'infos, plus de choses. Et on va se laisser en musique, encore une fois, avec mon choix musical.
Qui est aussi chez Père que le mien, je crois.
Alors, c'est différent. C'est pas la même chose. Avec un artiste français qui fait de la chanson française, qui s'appelle Thomas Dutronc. Vous le devez peut-être connaître, je pense.
Et avec... Son père aussi.
Ouais, son père aussi, par exemple. Et ils ont fait quelques morceaux, des petits trucs comme ça. Ils sont apparus 2-3 fois. Et le morceau que je vous propose d'écouter s'appelle « Des frites,
et
bordel ».
Et on vous souhaite un bon week-end aussi.
Absolument, oui, en passant, on vous aime bien. On vous souhaite un bon week-end et rendez-vous lundi. Enfin, qu'est-ce qui se passe complet avec l'agenda de la semaine prochaine. À toutes, avec « Des frites, bordel ».
Chère mamie, cette petite carte de Vendée où nous sommes pour quelques jours. Tout contribue à ce que nous passions d'agréables moments.
Oui, vous vous rappelez ces cartes postales?
Le soleil magnifique.
Quand on était petit, il fallait toujours se forcer à les écrire. Il y avait... Voilà, fallait écrire à notre tante, notre grande-tante, notre grand-oncle, et puis bah, ça nous barbait. Alors, nos parents, ils écrivaient la carte, et puis on signait en bas.
Il y a longtemps que je voulais t'écrire, et puis voilà, je ne l'ai pas fait.
Puis maintenant, le temps a passé.
Le temps est très gris.
Quand on ouvre notre boîte aux lettres,
bien cher Jean-Luc,
c'est nous qui aimerions bien recevoir plus de cartes postales. Je me rappelle de mon grand-père à la fin de sa vie, il avait 86 ans.
Un voyage de plus, cette fois.
Sa femme était morte.
Après un week-end de Pâques, toi, la semaine de congé.
Il rentrait tout seul, il avait du mal à pousser la porte, qui était assez lourde.
Je pense à toi.
Puis il ouvrait sa boîte et dedans il y avait des conneries de serrurerie.
On espère vraiment que par chez
toi. Genre des prospectus, des machins. Et puis je me suis dit, putain, je lui écrivais pas assez de cartes. J'aurais voulu lui écrire plein de cartes. Et voilà, et le temps passe, bordel. Le temps passe toujours trop vite, hélas. Nos amis, souvent les plus chers, les meilleurs, sont partis. Ils sont loin, sont malades, sont morts. Parfois, dans la nuit, on ne sait plus très bien qui on est, on ne sait plus où l'on va. Parfois l'angoisse nous prend le cœur. Parfois la personne qui dort à côté de nous est un étranger. Alors, moi je sors. Et je me commande un steak frites. Un bon gros steak. Avec des frites. Bordel! Y'en a marre de ce poisson grillé. De ces haricots verts. À mort le haricot! Vive la choucroute! Un bon gros morceau de viande et des pommes de terre bien grasses. La révolution du saucisson est en marche! Venez avec moi, vous roulez dans la paella, vous voterez dans le couscous, mes amis. Aux ordures et à la poubelle, ces oméga 3. On veut des graisses saturées. Ras le cul de ce régime. Prenez des tubercules, des pommes de terre, vous savez, ces tubercules. Coupez-les en fines lamelles, plongez-les dans l'huile bouillante, salez-les, et vous aurez des frites. Ni Dieu, ni maître, mais des frites. Bordel.